Voisins, voisines d'ailleurs, un balado en 5 épisodes qui permet de mieux comprendre la réalité des personnes immigrantes qui ont choisi le Québec comme nouveau chez soi. À travers des témoignages touchants, empruntez l'avenue des épreuves qu'il est nécessaire d'affronter pour se créer une nouvelle vie avec patience et détermination. Produit par Spira, le balado est disponible gratuitement sur le site lesoleil.com/balado.
Bonjour, ici Véronique. À compter de ce lundi, les employeurs peuvent embaucher jusqu'à 20 % de travailleurs étrangers temporaires. Cela représente une augmentation de 10 %. Cette annonce s'appuie également sur les assouplissements apportés aux exigences de recrutement pour certaines professions en demande. Les gouvernements du Canada et du Québec ont entrepris cette démarche pour refléter les besoins du marché du travail, c'est-à-dire le manque de main-d'œuvre au pays. Les gouvernements travaillent aussi à la simplification des processus d'embauche de travailleurs étrangers temporaires. Bonne nouvelle, le carnaval aura bel et bien lieu. L'organisation annule ses rendez-vous musicaux, mais annonce deux nouvelles activités extérieures adaptées au contexte. L'activité Hockey de quartier est un jeu participatif qui permet ultimement aux joueurs de remporter du temps de glace au centre Vidéotron pour disputer une partie entre amis. Les amateurs de plein air et de sport extérieur pourront agrémenter leur passion avec le jeu Cherche et Trouve, organisé en collaboration avec Tourisme Jacques Cartier. Cette année, l'effigie du carnaval se détaille à 15 $. Le passeport vaccinal sera obligatoire pour l'accès aux trois sites. Une équipe de scientifiques de l'Université Laval aurait découvert pourquoi la dépression majeure affecte différemment les femmes et les hommes. Des analyses menées sur des cerveaux de personnes atteintes de dépression au moment de leur décès ont révélé la présence d'altérations situées dans des régions cérébrales différentes en fonction du sexe. Le groupe de chercheurs et chercheuses est le premier à démontrer l'importance de la santé neurovasculaire dans la dépression. Les marqueurs sanguins, considérés comme responsables de la dépression, pourraient servir au dépistage et au diagnostic de la maladie. On pourrait aussi y recourir pour mesurer l'efficacité des traitements existants ou de traitements en développement. Mais avant d'en arriver là, il faudra toutefois mener des études cliniques sur de larges cohortes pour en confirmer la fiabilité, explique Caroline Ménard, responsable de l'étude. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'écoute de CKIA 88.3 et CKIAFM.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour.
Dites bonjour et bienvenue à l'émission Le Jardin de la nuit, les ondes de CKIA FM et sur Facebook Live. Je m'appelle Larry Hodgson et je vais être avec vous pendant la prochaine heure pour discuter de jardinage, répondre à vos questions sur tout, et on va commencer par le foie. Hein? Vous avez sûrement des questions là-dessus, parce que ça fait un an qu'on n'a pas eu de foie comme ça, mais c'est tout à fait normal. Il y a rien de... Je pense qu'hier, ils nous avaient annoncé que c'était le jour le plus froid de jamais à Québec, dans mon coin, hier. Écoutez, oui, mais d'autres ont eu des journées plus froides que ça. C'est absolument rien d'exceptionnel. Nos plantes sont acclimatées maintenant. Au moins dans l'est de la province, Montréal, je ne suis pas aussi certain, l'automne a mis place à l'hiver tranquillement. Le foie est venu peu à peu, le terre s'est gelé, on n'a pas eu... Ce qui est le pire pour les plantes, ce n'est pas le foie, c'est le gel des gels. Et c'est une journée de dégel, ce n'est pas la fin du monde. C'est quand c'est dégel vraiment et que les plantes commencent à se réveiller et ça revient. Ça, c'est terrible. Mais on n'a pas eu ça. À Québec, au moins, c'était assez graduel vers le foie et c'est resté en bas de zéro une fois que le foie est arrivé. Pas mal. Donc, vraiment rien de très grave. Donc, même s'il fait très froid, la plupart des plantes qui sont acclimatées, les plantes des zones habituelles, si vous êtes en zone 1, 2, 3, ben, les plantes de ces zones-là. Si vous êtes en zone 4, on parle des plantes 1, 2, 3, 4. Mais ces plantes-là vont être correctes. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Il y a quand même une couche de neige. Encore, je ne suis pas certain à Montréal. Québec a une couche de neige depuis le mois de novembre, hein, début de novembre. Et c'est toujours là. Et donc, chez moi, entre autres, si je regarde de côté, vous, vous ne voyez pas. Ma couche froide découverte de neige. Oh non, c'est vraiment l'hiver. Tout à fait normal, même si on trouve qu'il fait extra froid ces jours-ci. C'est pas extra froid au niveau de l'histoire. C'est juste extra froid par rapport à les températures normales de cette saison.
Larry, si je peux me permettre, oui. Les gens n'ont pas de mémoire. Non. On a un moins 35 aujourd'hui ou hier, mais on a eu le même moins 35 il y a un an, tu sais.
Ah oui, c'est sûr. C'est ça qui arrive, on oublie. Puis en plus, pour les plantes, les autres facteurs qui font en sorte que nous ressentons le moins 35, c'est pas ça que les plantes ressentent. S'il fait moins 21, vraiment, c'est ça que les plantes ressentent. Donc, pour les plantes, il y a rien de très, très spécial. C'est certain qu'il y a quelqu'un qui aurait planté une plante complètement hors zone. Je sais pas, vous avez planté une rosée hybride d'été et vous l'avez laissée à l'extérieur l'hiver sans le protéger de moindrement. C'est une plante qui est de zone 7 ou 8. Je comprends, la plante a des problèmes. Mais si vous avez planté, un arbuste de zone 4, en zone 4, il ne devait pas avoir de problème. C'est tout à fait normal.
Moins 18 actuellement, Larry, dehors.
Moins 18. Mais moins 18, c'est quand même, c'est pas chaud, mais pour un hiver québécois, c'est dans le normal. Au total, globalement. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Et que je vais aller avec une question que j'ai reçue par courriel. pardon. Il y a Anne qui écrit, je pense que je n'aurais peut-être pas dû couper à l'automne les fleurs de mes hydrangées bleues. J'ai vu sur votre site que ça empêchera la floraison au printemps prochain. La fleur durera-t-il plusieurs années? La réponse de ça, c'est non. Donc, c'est simplement cette année-ci. Quand vous taillez mal, par accident, ça arrive, hein? Quand on fait une mauvaise taille pour un arbuste, c'est seulement la saison, soit en cours de la saison suivante, qui va t'affecter. La prochaine fois, tant que vous ne répétez pas, si vous le répétez, bien là, c'est une histoire, mais tant que vous ne répétez pas cette taille-là, la plante va récupérer le rendement maintenant. Je donne un exemple. Mon voisin, qui est de Lila, qui le taille tous les ans pour que ce soit carré et qu'il n'y ait pas de fleurs. Écoutez, c'est pas la faute de la haie, c'est parce qu'il taille constamment. Et on sait qu'un lilas, il faut le tailler seulement si on a besoin de le tailler. C'est pas obligatoire jamais pour un lilas. Mais s'il faut le tailler, c'est après la floraison et jamais par la suite. Si vous, comme il fait ses boutons floraux sur le bois de l'année en cours, l'année précédente, donc au cours de l'été, après avoir fleuri, il commence à se préparer pour la prochaine floraison. Mais si vous coupez ces branches-là, au printemps, il n'y a plus rien pour faire des fleurs. Il va faire le feuillage. Il faut arrêter. Dans le cas de l'hydrangée bleue, par contre, là, c'est des questions d'âme, il reste quand même, c'est une plante complètement hors zone. Les chances que ça fleurisse sont relativement minimes. Ça ne fleurit pas d'habitude au Québec. C'est une plante de zone 6, 7, 8, ça dépend. C'est une clone zone 6. Mais il ne faut pas se fier sur cette plante-là. Moi, je considère cette plante-là une excellente annuelle. Pas très intéressant comme arbuste. Voilà.
On a des questions. Je suis en train de la perdre, justement. Pascal Payan. Au printemps, je dois rempoter mon orchidée. Que me conseillez-vous? Les racines sortent de partout.
Ah, ben, la racine, c'est pas grave. Donc, juste pour que vous compreniez quelque chose. La vaste majorité des orchidées que nous cultivons sont des phalaenopsis. C'est une catégorie d'orchidées, une genre. Et cette plante-là, dans la nature, pousse sur les branches d'arbres. C'est épiphyte. Épiphyte qui pousse sur les branches. Et sur les branches d'arbres, il n'y a pas de terre. Ces racines sortent dans tous les sens et collent sur l'écorce. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une espèce de colle végétale. pour les tenir en place. Et par la suite, pour absorber de l'eau. Mais la plante n'a pas l'habitude d'être dans une peau. Donc, quand ça pousse chez nous, on est habitué aux plantes ou on a une plante qui est plantée en peau, puis les racines, on ne les voit pas. Mais une orchidée, même quand vous l'achetez, où on a recouvert toutes les racines, d'autres se forment et s'en vont dans l'air. On appelle ça des racines aériennes et c'est tout à fait normal. Donc, sans la soie, ce n'est pas un problème. Il reste quand même que, oui, on peut être une orchidée. C'est nécessaire des fois. On ne veut pas. C'est comme n'importe quelle plante. Son terreau se décompose avec le temps. Quand vous êtes rendu au point où le morceau de bois, les autres morceaux de corps de bois, pour ceux qui ne connaissent pas les orchidées, sont cultivés dans un terreau spécifique, spécial aux orchidées. Pour, en fait, à cause du fait que ce soit implanté épiphyte, qui ne colle pas les terreaux plus lourds que nous utilisons pour les autres plantes intérieures. Donc, quand le bois commence à ramollir, quand vous touchez cette couche, le bois ne devrait pas s'écraser quand on touche. C'est signe que c'est temps de changer. Et au printemps, c'est un excellent moment pour faire le rempotage. Quand vous rempotez, enlevez la façon peau, faites tomber tout l'ancien terreau, ce n'est plus bon à rien, et vous allez, pour la suite, tailler les racines qui sont mortes, enlevez-vous facilement. Les racines mortes sont rendues brunes ou beige ou sont molles, et les racines encore en vie sont vertes ou blanchâtres, ça dépend de l'état de l'humidité au moment du rempotage. Coupez ce qu'il y a de mort, nettoyez votre sécateur entre chaque coupe avec de l'alcool de friction. Rempotez dans un nouveau terreau pour orchidée, vous aurez acheté spécifiquement pour cette fin. Ça peut être un pot de même taille ou un pot un peu plus gros, ça dépend de comment la plante va pousser. Et là, vous pouvez prendre les racines qui ressortent et les serrer dans le pot et couvrir avec le terreau pour orchidée sous les. Ce serait la façon de les cacher au moins temporairement. Pas besoin de les cacher tous, mais on pourrait cacher une partie, si vous voulez. Et comme ça, la plante va paraître un peu moins sauvage, si on fait ça. Et par la suite, si j'ai trempé votre mélange dans un seau d'eau pour que ce soit arrosé, et vous êtes parti pour le rempotage. Encore le printemps. Pas maintenant tout à fait. Attendez un mois et demi à peu près. Là. Fin de février, là, les jours sont assez longs. La plante commence à réagir. Ce serait un bon moment pour commencer, si vous voulez.
Annie Kaya, j'ai quelques questions concernant le savon noir. Est-ce aussi efficace qu'un insecticide comme le End-All, le Trousse? Ça, c'est la première question. Une autre que j'ai déjà... Non, une autre... Je recommence. Une fois que j'ai appliqué le savon noir sur une plante, est-ce que je dois rincer la plante après? Lorsque je fais mon mélange de savon noir et d'eau, est-ce que le mélange dure longtemps ou expire après un certain temps?
OK, voilà. Donc, le savon noir est un savon importé d'Europe ou d'Afrique, ça dépend où, qui est fait à base de différentes plantes, souvent l'olive, mais il y a beaucoup de contrefaçons dans ce domaine-là. C'est drôle de dire contrefaçon de savon, mais on met n'importe quoi dedans. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est, le savon noir en général. Peu importe ce qui est marqué sur l'étiquette. Ça demeure un mystère, en bonne partie. On découvre que le savon noir, qui est très populaire en France pour le traitement insecticide, que c'est plus toxique aux plantes que le savon insecticide. Le savon insecticide, qui est un produit canadien, est un produit pur. Il n'y a pas d'impureté. Le savon noir, on a découvert toutes sortes de pesticides, herbicides, plein de choses dedans. Donc, on a des problèmes avec ça. Mais, habituellement, on n'a pas trop de problèmes. Mais il reste quand même que le savon insecticide coûte moins cher et donne un meilleur résultat. Donc, tant que choisir, mettez le savon noir de côté, c'est bon pour laver la vaisselle, pour laver de meubles, des choses comme ça. C'est moins bon pour les plantes. Mais quand même, c'est moins pire que les trucs de vaisselle qui ne donnent absolument rien et que les gens utilisent pareil. Donc, non, vous n'avez pas besoin de rincer ou en avoir mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est normal, ça se décompose très rapidement. Quand même, c'est que du savon. Hein. C'est que du savon. Est-ce que ça expire? Et là, la question devient partie. Quelle sorte d'eau que vous avez? Parce que ça peut durer quand même des semaines, des mois, C'est-à-dire, mais si votre lot est dur, ça comme coagule assez rapidement. Si vous allez voir, si ça a l'air correct et ça sent encore le savon, c'est encore possible de l'utiliser. Moi, personnellement, je vais essayer de ne pas en faire trop, en faire assez pour mes besoins sur le moment. Mais si je veux l'utiliser dans un 3-4 jours, une semaine, ce n'est pas vraiment le problème.
Michel Dionne, liste de paix à la maison. Ses feuilles deviennent brunes puis sèches. Quel est le problème?
Les feuilles brunes, c'est un symptôme de presque n'importe quoi. C'est triste à dire, hein? D'abord, ça peut être juste les plus vieilles feuilles. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait normal. La plante pousse du centre et prend une nouvelle feuille au centre. Et les feuilles autour vont tranquillement mourir. C'est le cycle naturel. Un hoste dans le jardin fait la même chose. D'ailleurs, les deux ont une certaine, ressemblance, si on veut, dans leur façon de pousser. Mais ça se peut aussi que ce soit le terreau qui est trop dur ou trop riche en minéraux. Si ça fait une plante dans le pot depuis quelques années, ça peut être ça. Et ça fait brunir l'extérieur de feuille. Ça peut être une sécheresse constante. La plante manque d'eau tout le temps. Ça peut faire ça. Ou trop d'eau. Si la plante est toujours dans l'eau, ça peut causer ça aussi. Air trop sec. Et c'est peut-être une combinaison de tout ça. Fait que c'est pas toujours évident à voir. Une possibilité, c'est d'augmenter l'humidité. Ça, si augmenter l'humidité règle le problème pour l'hiver, c'est pas si pire. Ce serait peut-être bien de faire un rempotage. Si la plante est dans un pot depuis quelques années, peut-être un rempotage au printemps, peut-être un pot plus gros, pour ça, c'est plante d'expansion, un isolateur. Il y a beaucoup de racines. On va prendre un pot plus gros pour que ce soit moins stressé par la sécheresse. Et ça donnerait l'occasion de changer le terreau aussi en même temps. Et pour l'instant, peut-être augmenter l'humidité, voir si ça ne règle pas le problème, au moins pour maintenant.
Steve Gagnon, est-ce que tailler un peu un vieux pommier stimule la production de pommes?
Oui, dans le sens que les branches, en vieillissant, produisent de moins en moins, produisent un peu pareil. D'ailleurs, c'est jamais la vieille partie de la branche qui produit. C'est une nouvelle partie sur les vieilles branches. Mais on arrive à un point où ça produit très peu. Normalement, ce qui va se faire, c'est qu'on va regarder les branches charpentières qui donnent la forme à la plante, à l'arbre. On va couper les parties trop longues, d'ailleurs, qui vont trop loin. On peut les tailler. Ça stimule la nouvelle croissance. Et on voit les résultats, surtout dans 2 ans. Quand la plante aurait recommencé à vraiment repousser beaucoup, et c'est sur les branches donnantes, sur la nouvelle pousse, donc 2 ans plus tard, surtout que ça va vraiment faire une différence et fleurir davantage, et bien sûr pour les pommes aussi, en plus grande quantité.
On a un commentaire ironique, je dirais, de Clémence Carrier qui dit bonjour, moins 15 à Québec en ce moment, pas mal plus chaud qu'hier.
Bon, moi, c'est le foie l'hiver. Que voulez-vous? Si on ne veut pas avoir du foie, les gens qui ne veulent pas vivre le foie, ils sont en Floride ou je ne sais pas où, là. Les autres, on est capable. On est capable, nos plantes sont capables. On est fort.
Mu-Saint-Onge, bonjour. Lorsque j'ai semé mon aigle l'automne dernier, j'ai laissé une distance d'environ 16 pouces entre les rangs. Est-ce que je peux semer ou planter quelque chose qui ne devient pas trop gros dans ces espaces où ça nuirait à l'ail? Je pensais à des chou-raves, entre autres. Pas un plant de tomate, inquiétez-vous pas. Est-ce mieux de semer ou planter des petits plants? Autre suggestion?
Oui. Ça, c'est une question un peu embêtante, dans le sens que c'est sûr qu'on peut planter entre les rangs. Le chou-rave, des fois, ça devient gros un peu, hein? Quelque chose de plus petit que l'ail. L'ail, c'est pas si énorme que ça. Moi, je dirais, je gérerais pas des petites choses pour pas déranger, c'est pas laitue récoltée jeune ou des radis ou des choses comme ça. Planter tôt, pas trop près de la base de la plante. L'ail, c'est pas une plante qui aime quand je lance les racines. Mais vous avez 16 pouces. Ça, c'est quoi? C'est 40 centimètres. Oh, c'est en masse pour planter autre chose entre. Certainement, vous voulez justement que ça ne devienne pas trop haut et que c'est très long. À vous de décider qu'est-ce qui convient, mais vous pouvez mettre autre chose, oui.
Aiden Knight. Bonjour, M. Hudson. Mon plant de lavande était très gros cet automne. sous les tiges, il n'y a qu'un seul tronc. J'imagine qu'il ne peut donc pas être divisé avec une pelle. Quel est le meilleur moyen pour le multiplier? Merci de vos précieux conseils.
Oui, la lavande n'est pas une vivace, vraiment. On la classe avec les vivaces parce que ce n'est pas une plante de grande taille, mais en fait, c'est un arbuste. Normalement, il ne fait pas de rajon. Je ne dis pas, des fois, on a acheté un plant qui fait deux boutures dans le même pot. Mais en fait, ce n'est pas bouturage quand on reproduit cette plante-là. Très rarement, par division, c'est presque pas possible, au moins que votre plante ait produit des plants à côté, des rejets. Donc, c'est pas vite non plus, ça prend beaucoup de temps. C'est les boutures qu'on fait plutôt. Et les boutures, on peut les prendre au printemps, au début de l'été, et les faire enraciner dans un terreau humide, mais aéré. Pour la lavande, il faut un mélange plus aéré que le normal, pour pas que ce soit trop humide, mais pas trop. Donc, ça pourrait être mettre la moitié de terreau ordinaire, terreau pour semi-ordinaire, et moitié perlite, par exemple. C'est d'aller ce mélange plus aéré pour les boutures de lavande. Et après, une fois que c'est enraciné, ben vous pouvez l'acclimater en dehors. Je vois que Michel a eu d'autres choses. Il fait ça chez vous, lui. Hein? On est tous chez nous. Oh, d'ailleurs, remarqué, je suis de retour dans mon bureau. La semaine passée, j'ai dû me déplacer ailleurs et je n'ai pas encore tout à fait mis le bureau à mon goût encore. Mais c'est mon... On a refait les planchers partout dans mon sous-sol. Et que là, je remonte tranquillement mon bureau. Et j'ai même réussi à imprimer. Wow! Okay. Je n'aurais jamais pensé. Vous savez, quand on change quelque chose de nos jours, c'est des choses qui arrivent. Donc, est-ce que Michel est de retour?
Oui, je suis de retour, mais malheureusement, j'ai quelqu'un ici que j'avais oublié qui passait aujourd'hui. Je m'excuse. Donc, je vais devoir te laisser... continuer okay. Seul.
OK, merci beaucoup, Michel.
Je m'excuse, j'avais complètement oublié ce rendez-vous-là ce matin. Okay. Donc, chers auditeurs, je vous retrouve avec Larry la semaine prochaine. Puis, bonne chance, Larry, pour la suite.
Merci beaucoup. Bon, on va s'organiser. Hein? On va s'organiser. Donc, je vais voir quand même des questions.
Voilà, vous avez...
Bon, là, ça doit être correct. Mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé à Michel de donner les questions... C'est de me donner le temps à moi de reposer mon voix, ma voix, entre deux questions. C'est comme évident que j'ai un problème de poumon, hein. Fait que c'était ça, mais en tout cas, je m'organise. Si je ne peux pas me rendre jusqu'au bout, pas. On va arrêter plus tôt. C'est tout, voilà. Je vois que Sylvie Rousseau écrit avec une question. Des conseils pour la transplantation. La transplantation, c'est une chose que je trouve très facile à faire. Mais peut-être parce que j'ai fait ça toute ma vie, je ne sais pas quand j'ai commencé, sûrement que je n'avais pas 6 ans, la première fois que j'ai transporté quelque chose. Donc, pour moi, c'est comme tout à fait normal. Mais il reste quand même qu'on a pris des choses de transplantation avec le temps, des choses qui s'ajoutent et qui le rendent plus facile, en fait. Parce que l'époque où j'ai commencé, il était question de beaucoup améliorer la terre. Enlever la terre, plus profond que le motte, mélangé, ameublure au fond, des choses comme ça. Aujourd'hui, on sait que ça ne donne pas grand-chose. On sait maintenant que les racines qui vont chercher les minéraux, qui sont les plus actives, c'est vers la surface, c'est pas en profondeur. Il y en a des racines là qui vont chercher quand même certaines choses, mais là où il faut avoir un terreau aéré, où il faut avoir des minéraux, c'est plus près de la surface, disons 15 cm, 20 cm, dépend des plantes. Donc, ça ne sert à rien de creuser en profondeur. Et idéalement, la plante devrait se reposer sur une base solide. Donc, ameublure le fond, finalement, ça ne donne rien. Les gens disent, oui, mais mon sol est lourd. Écoutez, si votre sol est lourd, mal drainé, plantez des plantes qui aiment un sol lourd et mal drainé. Problème réglé. Parce que pas en ameublissant le sol en haut que vous avez réglé le problème de votre drainage. Ce n'est pas en ameublissant le sol au fond non plus. Ça va redevenir dur. Rien à faire. Il faut s'adapter aux conditions. Donc, on va creuser un trou 2 fois ou 3 fois plus large que le motte pour avoir de l'espace pour planter. On va enlever le pot, bien sûr. Arroser la veille, toujours une bonne chose. pour faire le plâtre, que les résines soient exposées à l'air trop longtemps et que ce soit quand même un peu humide. Donc, on va enlever le pot, on va s'enfiler le plâtre dans le pot, le tout qu'on a fait à la même hauteur que la motte, ou dans le cas des arbres et des arbustes, il le recommande de laisser dépasser un petit peu. Au cas où il y a un problème de drainage, laisser exposer la surface un petit peu. On va mettre le paillis après, ça va régler. Ça ne dérangera pas. Donc, on met le plant dans le centre. On peut appliquer énormément d'enracinement. Ce n'est pas nécessaire d'améliorer le sol. Prenez le sol comme tel. Si le sol a besoin de refaire au complet, ben, refaites au complet. Puis, ce n'est pas bon d'avoir des spots dans le jardin où le sol est riche, avec d'autres côtés où le sol est pauvre. Aussi bien d'avoir le terre égal partout. En tout cas, donc, dans le fond, vous creusez un trou, vous plantez, vous retournez la terre. Si la plante est une bonne motte, disons 40 cm ou plus, remplissez le fond, faites une fond de terreau, arrosez, remplissez le tout, laissez l'eau descendre, pour être certain que les racines inférieures en repart. Après ça, complétez, laissez l'eau descendre. On peut tasser un petit peu, avec les mains, avec le pied, et même pailler pour finir. C'est ça la transplantation, en plein terre, voilà. Maintenant, les cellules blé. Au niveau d'une adresse où je peux assurer les semences d'hibiscus, autre que l'Association internationale d'hibiscus, c'est vous. Malheureusement, je ne sais pas. C'est sûr que les hibiscus, il y a plein de sortes. Il est assez facile de trouver des semences d'hibiscus vivaces, soit hibiscus moschutos. Ça, beaucoup de compagnies offrent des semences. Mais pour des semences d'autres espèces, et il y en a énormément d'espèces. C'est pas évident. C'est peut-être là la meilleure place pour chercher. Mais je n'en connais pas de spécialistes d'hibiscus professionnels qui pourraient vous aider avec ça. Malheureusement. Maintenant, j'ai Maggie Rousseau. Bonjour. J'ai placé des bulbes d'air en octobre parce que les feuilles ont poussé à peu près. Est-ce normal avant l'hiver? Oui et non. Ça dépend des conditions. Imaginez-vous que vous êtes en Europe, dans le sud de l'Europe. L'ail pousse à l'état sauvage chez vous, ou est échappé de la culture des générations. Qu'est-ce que l'ail fait dans ce cas-là? L'ail commence à pousser à la fin de l'automne. Pousse pendant l'hiver, fleurit au printemps, et on en récolte au début de l'été. Mais chez nous, l'ail est supposément en tendance à l'automne, reste en dormance tout l'hiver, pousse au printemps, on récolte à la fin de l'été. Donc, c'est décalé par plusieurs mois, autrement dit. Donc, quand on le plante à l'automne, il arrive des fois, selon des conditions, que le feuillage commence à sortir, même si ce n'est pas encore le printemps. Si oui, on ne fait absolument rien. C'est tout à fait normal. Laissez faire. La plante va s'organiser avec ça. Au printemps, c'est 50 000 poussées. C'est comme ça. C'est une plante un peu originale à ce niveau-là. Il y a Steve Gagnon qui écrit, qui dit « Bonjour Larry, que conseillez-vous pour acheter des semences cette année? » Bon, d'abord, vous avez remarqué que de plus en plus des compagnies des semenciers ont abandonné leur catalogue imprimé. Moi, j'ai reçu WH Perron, j'ai reçu Vessies, Stokes, on a reçu un avis, ils ne font plus le catalogue. Et d'autres compagnies n'en font plus, d'autres le font, ça dépend. Moi, je dirais, mais un conseil, si vous avez des compagnies qui vous ont donné satisfaction, retournez les voir. Ça, c'est la première chose. Juste une note en passant. Une de mes compagnies préférées est de retour, Chiltern, C-I-H-L-T-E-R-N, Chiltern Seeds, compagnie anglaise. Toujours été une bonne place pour trouver des plantes de culture faciles, mais qui sortent de l'ordinaire. Ça fait des années que je commande chez eux, mais depuis 2 ans, depuis que l'Angleterre s'est extrait, si on veut, de l'Union européenne, il y avait des complications, des papiers à remplir, ils ne savaient pas s'ils allaient vous le voir. C'était compliqué pour eux et pour d'autres semenciers d'expédier vers l'Amérique du Nord. Mais c'est réglé maintenant. On peut maintenant aller chez Chiltern On peut remplir sa formule, choisir ses plantes, les commander, payer par carte de crédit comme chez nous, et ça va arriver par la poste. Donc, c'est un revenu, ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je dirais, en tout cas, moi, je me fais des listes. C'est ma façon de fonctionner. Je parcours des catalogues, je note ce que je veux dans tel catalogue avec le prix, dans un autre catalogue avec le prix. Et après ça, je compare mes listes et j'essaie de couper. Pas évident. Quand vous avez mis, je sais pas, 199 vérités de semences et vous en voulez 4 ou 5, le choix est donc difficile. Mais écoutez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est à peu près mes conseils pour les plantes de semences. Et c'est le moment pour le faire. Hein? Parce que les semences, vous avez vu, il y a 2 ans et l'an dernier, ça a manqué partout. C'était terrible. Donc on va essayer. Pas vivre ça. On va espérer que les semenciers s'empressent cette fois-ci. Et on ne sait jamais. Oui. Maintenant, j'ai une question ici de Duan Trang Fan. Je m'excuse, j'ai mal prononcé, je ne sais pas. Pouvez-vous nous expliquer la notion indigène des arbres et plantes? Par exemple, certains ont prospéré en Amérique du Nord comme l'acéminier, papa, qu'on dit que Jacques Cartier en a été servi, et le ginkgo fossile des feuilles trouvées au Canada ont disparu et ont été réintroduits. Merci beaucoup. Les plantes indigènes, c'est, dans un sens, ce n'est pas compliqué. D'après les définitions essentiellement des botanistes, ces plantes pour l'Amérique du Nord. Donc, elles sont extraction de toute autre partie du monde. Pour l'Amérique du Nord, c'est des plantes qui étaient ici avant l'arrivée des Européens. Les Européens sont venus ici, ont porté des plantes, et ça a changé beaucoup de choses. Et si la plante est ici avant, c'est une plante indigène. Maintenant, que faire avec une plante comme l'acéminie? L'acéminie ou papa, c'est un arbuste à fruits, intéressant, qui pousse au Québec autrefois. Si Jacques Cartier en a goûté, c'est probablement que quelqu'un l'a porté, ça pousse juste l'autre côté de la frontière. Probablement pas au Québec directement. Mais cette plante-là est repoussée au sud, par les glaciers, et remonte. Donc, si elle revient toute seule du sud, personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est une plante indigène. Mais vous savez, les puristes, hein? Non, c'est pas une plante indigène, c'était pas ici. Au moment où Marie-Victorin a écrit son livre. C'est un peu la façon de voir les choses. Mais c'est une question de choix. Le ginkgo, je peux pas dire qu'on peut croire qu'un ginkgo soit une plante indigène. Le ginkgo qu'on connaît, c'est une espèce de ginkgo. Il y en a eu plusieurs autres dans le passé. Les espèces d'Amérique du Nord, puis il y en avait eu plusieurs, sont toutes disparues. Il n'en reste plus depuis littéralement des millions d'années. Donc, une plante qui a disparu des millions d'années et qu'on réintroduit, on ne peut pas dire que c'est une plante indigène. Là où c'est compliqué, que fait-on avec les sélections des plantes indigènes? Faisons une rudbeckie pour une rudbeckie indigène qu'on aurait appelée Gladys. OK, le rudbeckie Gladys. Est-ce une sélection qui a des fleurs plus grosses, qui a une autre couleur, peu importe? Est-ce une plante indigène ou ce ne l'est pas? Alors, c'est une sélection de plantes indigènes. Ça, c'est encore le débat. L'indigène, c'est pas évident toujours de définir dans les cas comme ça. Moi, je dirais, d'ailleurs, l'autre façon de voir ça, est-ce que c'est limite? Est-ce que le mot d'indigène, c'est limite au Québec ou c'est l'Amérique du Nord? Logiquement, le Québec est une entité politique. Ça n'a aucun sens biologique. Donc, le fait que ça pousse, une plante pousse à un autre côté d'une frontière, pas la différence. Donc, en tout cas, beaucoup de choses à décider. Personnellement, je n'aurais pas de difficulté à accepter comme indigène une plante qui pousse naturellement dans l'Est de l'Amérique du Nord, avant l'arrivée des Européens. Et voilà. Maintenant, je te m'habille toi, Michel, qui vient me couper et laisser le temps de respirer. Et je vais prendre un verre d'eau et respirer un petit peu. France Leblanc. Bonjour. Vous auriez une ou deux plantes à porter avec vous, quelles choisirez-vous? Oh! difficile à dire. Et vous me parlez en plein hiver, donc j'ai surtout en tête les plantes printanières, parce que dans ma tête, à moi, j'attends le printemps. Je suis en préparation printanière mentalement. Donc, je pense qu'aux bulbes, mais beaucoup plus que les bulbes. Hein. Je peux difficilement répondre à ça. Il y en a tellement. Moi, je ne suis pas bon pour apporter une ou deux plantes. Vous me donnez une chance. Je vais en apporter 153. Ça, c'est mon style. Je vais bien l'éviter à résister aux plantes. D'ailleurs, j'essaie de m'empêcher de les dans les jardineries. Je sais très bien que je achèterai des plantes encore. Ça, je résiste pas du tout. Voilà. Maintenant, Marie-Thérèse Bourbonnais. Bonjour. Je voudrais avoir des grands plants de ricin pour l'été prochain. Quand dois-je mettre les graines en terre? Si vous voulez, vous pouvez regarder mon blog www.jardinierperlesible.com. J'ai écrit sur le sujet il y a une journée ou deux, trois jours, je ne sais pas. Mais en fait, le secret avec cette plante-là, c'est de ne pas faire ça trop tôt. C'est la grande erreur que les gens font. Parce que là, vous avez une plante, le ricin est une plante avec des feuilles énormes, des tiges très hautes. Certaines cultivars vont atteindre 3 mètres de haut et plus au cours de la saison. Donc, c'est vraiment... on a l'impression qu'il faut partir ça. Ben de bonne heure. Mais c'est pas ça, c'est le contraire. Il faut partir ça très tardivement. C'est que la plante a besoin quand même de chaleur pour germer. C'est une plante tropicale, très tropicale. Mais si vous le partez très, très tôt, ce qui va se passer, c'est que ça se met à pousser, mais les confins du pot vont empêcher les racines de pousser. La plante va rester collée et ça ne bougera plus l'été. Donc, normalement, avec le ricin, on le plante en pot tourbe pour que les racines puissent sortir. Un gros pot tourbe, un pot de 15 cm. Et on le sème quand? 3, 4, 5 semaines avant la date de plantation. Et calculer plantation, ça dépend où vous êtes. Moi, je dirais pour les gens de Montréal, peut-être, il serait peut-être assez chaud au début du juin, pas avant, parce que les nuits fraîches, ça ne va pas à cette plante-là. Donc, on peut faire ça, là, calculer ça, alors que Québec, c'est pas du tout avant le mi-juin, peut-être fin de juin, avant qu'on puisse se mettre en dehors. Donc, et vous voulez, ce que vous voulez avoir, c'est un jeune plant qui pousse avec encore ses cotylédons, ses deux premières feuilles, et pas vos 3-4 autres feuilles. Là. Mais il ne faut pas que ce soit plus avancé. Sinon, vous n'aurez pas de bons résultats. Donc, il faut vraiment penser à ça. Moi, je dirais, pour moi, à Québec, ce serait de partir ça dans le fond au mois de mai. Certainement pas plus tôt que ça. À Montréal, peut-être mi-avril. Mais vraiment pas longtemps. Il faut de la chaleur, un tapis chauffant peut être utile. Il ne faut pas partir ça trop tôt. OK. Bonjour. Je me reprends. Pour ma question concernant les semis et la culture des graminées, je sème sous néon en février-mars. J'ai vraiment la difficulté à porter mes légumes et les autres graminées décoratives. Merci. Oh, à l'intérieur. Alors ça, je n'avais pas saisi ça la semaine dernière. La légueuse, je ne la porterai pas à l'intérieur. Je la porterai de haut. Si vous portez ça au mois de mai, ça pousse beaucoup trop vite, ça n'aurait pas de bon sens. Portez ça maintenant. Les grandes graminées, là, on va présumer que ce sont des plantes vivaces. Dans ce cas-là, les résultats vont être surtout la deuxième année. Donc, si vous voulez semer maintenant, vous pouvez, sous les lampes, vous lavez les lampes, c'est parfait. Février-mars, c'est très bien. Ça va juste vous donner un avance sur la saison. Et vous le repiquerez dehors au cours de l'été. Et l'an prochain, ça devrait atteindre une bonne taille et fleurir normalement. L'agurus est une annuelle. Et si vous le semez même directement dehors, de même, ça pousse, ça fleurit dans le temps de l'été. Pas besoin normalement de partir dans la maison. Voilà. Voilà ici, j'ai Lucie Desjardins qui me dit... les mycorhizes ont-elles une date d'expiration? La réponse, c'est plus maintenant. Et c'est peut-être ma faute. C'est que... OK, là, on recule de 20 ans quand les mycorhizes sont sortis sur le marché. Tout le monde dans le domaine, en tout cas, est très excité parce que c'est essentiellement des études qui ont été faites au Québec avec le docteur André Fortin, qui avait vraiment développé ce produit-là. Et aussitôt que le produit est sorti, j'ai vu l'étiquette, je me suis dit, « Oh non, ça n'a pas de bon sens. Ils ont mis une date d'expiration. » Et on sait très bien que les mycorhizes peuvent vivre sous forme de spore jusqu'à 10 000 ans. Pourquoi mettre une date d'expiration? Fait que moi, j'ai appelé carrément au fournisseur. J'ai dit, pourquoi vous faites ça? C'est pas correct. Les gens vont mal comprendre. Mais ils ont expliqué. J'accepte pas leur explication. Ils ont expliqué, c'est que, oui, mais on ne sait pas ce que les gens vont faire avec la maison. S'ils mettent de l'eau dedans, ça va dépérir. Écoutez, mettez pas d'eau dedans. Pas plus compliqué que ça. Et au bout de quelques années, plus j'ai même duré, presque 15 ans, pendant ce temps-là, je l'ai dit, à voir vraiment plein de monde, je l'ai téléphoné plusieurs fois, je dis vraiment, vous rendez pas service à vos clients, et tout d'un coup, ça sort sans date d'expiration, comme il se doit. Parce que dans le fond, ils ont un produit qui peut durer 1000 ans, c'est pas besoin, 10 000 ans, c'est pas besoin de date d'expiration. Et on comprend tous que les conditions spécifiques pour le conserver, il explique sur l'étiquette, puis encore plus sur le site web. On ne met pas dans une situation d'humidité, vous ne versez pas d'eau dedans, mais autrement, c'est très... On peut même le faire geler, si vous voulez, tant que c'est sec. Mais expiration, non, ça, il n'y en aurait pas vraiment. Voilà. Bonjour, Luc Clich. Peut-on se servir de lampe d'aile blanc ordinaire pour les semi-bouteurs? Oh, absolument. Oh, absolument. Pas besoin d'avoir rien de spécial. Même pour les autres plantes. C'est ces histoires de mélange secret, de couleurs qui changent. Je dis pas. Le problème, c'est qu'il va y avoir toujours une fond de vérité là-dedans. Mais est-ce que c'est assez important pour que ça vaille la peine? Je dis pas quelqu'un qui fait une culture très spécifique, qui sait très bien que cette plante-là a besoin de, disons, 60% de lumière bleue le matin et seulement 20% l'après-midi. J'en connais pas de plante comme ça, mais supposons qu'il y avait une raison spécifique, on peut jouer avec ces choses-là. Mais dans le fond, lumière blanche, pourquoi une lumière blanche est blanche? C'est parce qu'elle contient toutes les couleurs. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on n'a pas besoin de rien de spécial. Quand vous achetez une lampe, une ampoule d'elle, demandez équivalent à Cool White. Équivalent Cool White. C'est le meilleur pour les semis. Si vous avez envie de faire fleurir quelque chose, qui est une autre chose complètement, on pourrait aller vers un équivalent Warm White. Mais les deux peuvent servir. C'est juste une question de. Un certain croissance un peu différente. Voilà. OK. Jean Bédard. Dois-je empailler mes plantes? Et comment les planter en zone 3? Ben, empailler. Là, je n'ai pas compris. On peut les rentrer et les garder au frais. Ça se conserve un bout de temps, pas tout l'hiver nécessairement. Et on peut les rentrer, c'est ça que je voulais dire. Les sémites peuvent se cultiver en zone 3, oui. Chercher des variétés de saison courte, et ça existe. Ce n'est pas un problème. Et vous les récoltez quand il commence à avoir du gel dans les environs. Sémites directement dehors. Au moins que ce soit une zone 3B, extra froid, on peut semer directement à l'extérieur dès qu'il fait assez chaud pour le faire. Donc, probablement fin de juin. Donc, une variété qui est en bas de 70 jours, c'est possible. Ça existe. Cherchez sur Internet, vous trouverez. Il y a plein de variétés de ces trous. Ici, j'ai une question de Carole Lacombe. Ah, j'ai trois premiers pyramidales qui font de magnifiques fleurs. Et les très petites pommettes à l'oiseau, jusque l'an passé, où de très grosses pommes ont commencé à pousser au sommet. On continue industriel, qui font tomber les branches, et blanc, une espèce de parapluie qui est bien lève, mais trop haut pour les couper. Quel est ce phénomène? Ouh! OK. Quand vous avez une plante pyramidale, comme ça, colonéo-pyramidale, c'est une mutation. La forme normale est large. Une première nature, c'est un pouce, un arbre qui pousse en largeur autant qu'en hauteur. Assez arrondi, dans le fond. Mais ces variétés-là ont été choisies spécialement des mutations qu'on a trouvées parce qu'ils sont plus étroits. Ça rend bien sur le terrain. Mais une mutation peut toujours retourner à la forme d'origine. On appelle ça une réversion. La réversion, la plante reprend la forme d'origine. Et dans ce cas-là, la seule chose à faire, ça serait de trouver quelqu'un qui peut monter et qui peut couper cette partie-là, parce qu'il faut l'enlever. Sinon, votre plante va perdre sa forme que vous voulez avoir, la forme colonnaire ou pyramidale. Comment ça? Pousser comme ça, à la place. Ça, c'est plate, mais ça n'arrive pas souvent, vous n'avez pas de chance, mais ça peut arriver pareil. Voilà. Question maintenant de Nicole Bérard. Moi, j'ai fait l'an dernier pour augmenter le temps de luminosité, même si c'est devant une fenêtre. Oh oui, oui, absolument. Vous savez que l'hiver est dur pour les plantes à l'intérieur, que ce soit des plantes de maison ou encore pour les semi-campeurs. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas en faveur des gens qui disent oh, ça met très, très tôt, mais c'est mis, et ils vont être plus en avance pour les saisons. Pas sous notre climat. Il n'y a pas assez de lumière en hiver. Si vous devez cultiver de bonne heure, certaines plantes n'ont pas le choix de les partir au mois de janvier ou février. Ben, mettez un éclairage d'appoint, ça peut être juste comme ça, d'appoint, pour compléter ou complètement un éclairage indépendant. Parce que l'hiver, là, ça ne fait pas des semis très intéressants. Pas dans le nord. Pas dans le nord. Ah. OK, il y a Joanne Demers. La question de planter autre chose entre les rangs, là, elle me donne l'idée de faire ça aussi au jardin. Je me demande si l'arrosage des nouveaux plants apporterait trop d'eau à l'ail. Probablement pas. Ça dépend de ce que vous semez, bien sûr. S'il vous plaît, c'est une plante aquatique. Oui, ça cause un problème. Mais la plupart des plantes de potager protègent très bien l'arrosage. Après des... 2000 ans, à peu près le voisinage, l'être humain, toutes mis ses plantes ensemble, elles sont rendues qui sont assez capables de se toffer, si on veut, se tolérer. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. L'ail n'a pas besoin d'être aussi sec que ça. Et quand l'ail est prêt, elle rentre en dormance. Vous savez, elle rentre en dormance. On ne peut même pas l'empêcher, même si ça vous est rosé. C'est sûr qu'au moment de la récolte, on veut que ça soit un peu plus sec, mais peut-être que votre deuxième récolte va terminer rendu là. Donc, on peut expérimenter, mais il ne devrait pas avoir de problème. Question de Patricia Dufresne. Est-ce une bonne idée d'enrichir les des plantes intérieures avec du compost? Pourquoi pas? Pas les semis. Je trouve les semis fragiles. Parce que le compost, c'est intéressant. C'est si riche en minéraux, mais ça ajoute aussi de la vie à la terre, des microbes bénéfiques, etc., qui peuvent s'asseler. Mais les semis sont un peu fragiles. Moi, je vais éclairer le compost pour les semis. Et une fois que c'est parti, on peut pourrait. Donc, mettez-en peut-être un quart de votre terreau pour être un compost, tout simplement, avant de le rempoter. Merci pour les questions. Maintenant, il y a Hélène Cholette. La casse. Est-ce que je dois déterrer mes bulbes d'acapante Summer Love à l'automne? Oui. Trop tard, peut-être. Il faut, en fond. Il faut parce que ce n'est pas résistant au foie. Ah, OK. C'est pas exagéré. C'est pas résistant au gros foie. C'est parfaitement résistant à 5, moins 6, quelque chose comme ça. Mais pas plus. Normalement, sous notre climat, on cultive l'agapanthe en pot. En pot, d'ailleurs. Un bac, si on veut. Parce que c'est le genre de plante qui n'aime pas transporter régulièrement. Et vous le laissez dans le pot pendant des années de temps. Vous le rentrez. On peut le laisser là. Le temps à l'automne. Le foie à l'automne ne dérange pas. L'idéal, c'est de garder au frais tout l'hiver et au sec ou presque au sec, l'hiver. Après ça, quand la température se réchauffe, on acclimate de nouveau à l'extérieur, quand on recommence. Des terrains replantés, des terrains replantés. Pour la guépante, c'est pas une bonne idée. Maintenant ici. À Sylvie Lalonde. J'ai commandé en ligne des semences de fines herbes. Ça fait 8 jours que les semences sont déjà postées, mais je ne les ai pas encore reçues. Compte tenu de livraison, pensez-vous que les grands foies ont endommagé les semences? Merci beaucoup. Non. Sauf. OK. Très rare exception. Je ne sais pas, ça me semble beaucoup que vous soyez des plantes enceintes, cette catégorie-là. Les semences tolèrent le gel très, très bien. C'est même pas un problème. Donc, mais il y a quelques semences, pas des légumes habituels, pas des plantes annuelles habituelles, mais notamment dans les plantes tropicales. Certaines plantes tropicales, les graines ne sont jamais en dormance, pas vraiment. Ça reste en vie en tout temps. Ils doivent rester en vie. Je donne comme exemple les clivias. Les clivias, les semences des clivias, je soupçonne que vous n'allez pas commander ça. Mais ça ne tolère pas le froid. Le gel. Un peu de froid, oui, pas le gel. Donc, ces plantes-là, non, passent pas. Pas tant qu'à froid. Mais 99, c'est des semences. Aucun problème. Et même, on a envoyé des semences dans l'espace. Oui, fais je pas. Moi, je ne sais pas trop quoi. Les semences de tomates et des semences de virus africaines. C'est deux plantes bien tropicales et au retour, ça a très bien germé. Donc, le froid, ce n'est pas un problème du tout pour les semences, tant qu'ils sont au sec. Froid humide, ah, ça, une autre histoire. Mais normalement, les semences qu'on vous envoie sont au sec. Voilà. Et je comprends le retard des livraisons ces temps-ci. La ville de Québec, en tout cas, semble en bout de ligne, des fois, quand on a les choses à commander. Voilà, maintenant, chez Carole Bourdeau, qui me dit, je suis novice et j'aimerais porter des semences d'herbes comme le thym basilic, ciboulette, etc. À l'intérieur ou à l'extérieur. Cependant, à l'extérieur, j'ai beaucoup de soleil. Est-ce possible? Et comment commencer? Et surtout, quand? Bon, écoutez, c'est pas plus compliqué que n'importe quel autre semi. Les 3 plantes mentionnées, je peux très bien les porter dans ma maison. D'ailleurs, je recommande fortement pour le basilic, qui ne tolère pas le foie. Fait que c'est une plante qu'on va toujours semer à l'intérieur où il fait plus chaud. Alors que le thym et le ciboulette, vous savez, le ciboulette vient du Grand Nord. Hein? Ça pousse en Groenland, ça pousse en Islande, ça pousse dans le Nord québécois. Le foie ne dérange pas le ciboulette. Mais le thym est quand même très résistant. Bon, moi je dirais, pour simplifier les choses, pour une première fois, semez-les à l'intérieur, à peu près, donc je ne sais pas où vous restez, ne vous dites pas. Semez-les 6 semaines avant la date où vous pensez pouvoir les mettre à l'extérieur, le moment où ils vont commencer à faire plus chaud. Demandez un jardinier du coin, qu'est-ce que c'est qu'il recommande. Semez-les en mettant les graines dans le sol d'après la taille. Si c'est comme de la poussière, en surface. Si c'est plus gros que la poussière, 3 fois l'odeur. Dans un terrain humide, gardez l'humidité. Et votre soleil, c'est bien. Une fois que ça commence à germer, exposez-le au soleil. Et vous trouverez sur le site web plusieurs possibilités à ce niveau-là. Comment faire? Voilà pour ça. Il y a maintenant Joanne de Mers qui dit, faites-vous répéter le nom du semencier anglais. Je ne le trouve pas sur Google. Il s'appelle Chiltern. C-H-I-L. T-E-R-N Seeds. C-H-I-L. T-E-R-N Seeds. Je vais rentrer moi-même pour être certain que c'est bien ça. Des fois, on se trompe. Comment c'est bien ça? Children Seeds. Mais moi, je n'ai pas de problème. Si je tape ça, moi, j'ai tout de suite le site web. Voilà. OK. Oh! Il y a Dwayne Tainfa qui a rappelé. Merci beaucoup de vos explications et commentaires sur la notion indigène. C'est toujours une joie de vous entendre. En passant, vous relancez parfaitement bien mon nom vietnamien. Ben, tant mieux. Mais je sais. Merci. J'apprécie beaucoup. Je pense. On va faire une dernière question, et après ça, on va voir Walker. On a sa place. Voilà. Tammy Gagnon. Je cherche des bulbes, semences de Sandersonia. Je trouve nulle part. Est-ce que c'est très rare ou je suis hors saison? Moi, je dirais que c'est les deux. C'est assez rare, mais vous êtes hors saison peut-être. Vous savez que ça va se vendre avec les bulbes. Et comme une ordre dans les savants, les compagnies qui vendent des plantes par le poste. Les savants sont premiers, parce qu'il faut les porter l'hiver souvent. Fait que si un moment, c'est comme ils préparent le catalogue, disons, décembre, 8 janvier, pour qu'on puisse commander et faire des semis au mois de mars. Les bulbes, il n'y a pas personne qui parle des bulbes au mois de février, là. Fait que les bulbes, c'est plus tard. Donc, bientôt, au mois de février, d'habitude, que les catalogues sortent. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans le catalogue cette année-ci. Le Sanderson est une magnifique bulbe avec des fleurs vraiment extraordinaires, mais un peu difficile à trouver. Mais ça se peut, une fois que les catalogues de l'année soient sortis, vous les trouviez. Puis une autre raison pour laquelle on ne les trouve pas des fois, autrefois, les catalogues sur l'Internet étaient gérés comme si c'était un catalogue papier. On publie, disons, le 15 novembre, et le catalogue reste en vigueur jusqu'au 15 novembre. Donc, les plantes qui étaient épuisées restaient là. On les voyait toujours. Mais aujourd'hui, c'est plus géré comme ça. Sur l'Internet, dès qu'une plante n'est plus disponible, on le retire. Ce qui fait que peut-être qu'il y avait des centres de son en vente au mois de mars, mais dès que les bulbes sont vendus, ça disparaît. Ça arrive avec des compagnies comme qui font beaucoup de bulbes rares, comme Botanus, entre autres. Ils ont des choses extraordinaires, mais aller sur le site web assez tôt dans la saison, parce qu'ils disparaissent peu à peu. À un moment donné, on ne les trouve plus. Donc, juste pour voilà. Mais écoutez, avec ça, je dois vous quitter maintenant. Finalement, ma voix tenue. Je suis content. On ne sait jamais. Mais au moins, c'est limité. Michel a dû nous quitter, mais il va te retrouver la semaine prochaine, Joshua aussi. Donc, merci beaucoup aussi à l'équipe de CKIA et surtout Marlène Bordolo. Je m'appelle Larry Hodgson. Et rappelez-vous que la semaine prochaine, on va être au retour avec l'émission de mercredi à 10h. Et j'ai oublié une chose. C'est vrai, la semaine prochaine, quand même, je peux vous le dire la semaine prochaine aussi, mais on va vous aviser d'avance. Dans une conférence virtuelle, le jeudi le 20 janvier à 8h, c'est au semi du Jardin botanique de Montréal. Donc, retenez, jeudi 18h, 20 janvier, Amis du Jardin botanique, c'est sur... visuel. Vous pouvez le rendre à distance. J'imagine qu'il y a moyen de vous joindre. Je le souligne parce que ça va être ma dernière conférence. Parce qu'après ça, je ne donnerai plus de conférence. Je ne me fie plus ma voix. Fait que ça va être la dernière. D'ailleurs, je fais quoi dans cette conférence-là? C'est quoi le sujet? Je réponds aux questions. Donc, c'est pas la même chose que je fais aujourd'hui. Et puis voilà, avec ça, vraiment, il faut que je quitte parce que CKIA a besoin de l'espace. Merci beaucoup, bonjour et bon jardinage.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Merde! L'émission vient de finir!
Vous avez manqué votre émission préférée?
Il y avait un super beau programme aujourd'hui!
Cessez de vous taper la tête sur les murs! Toutes les émissions de CKIA FM sont disponibles en balado-diffusion.
Et qu'est-ce que je fais?
Allez sur ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Je me sens tellement mieux, là!
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.